à l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. D'avoir fouiné, nous nous sommes aperçus qu'il n'y a pas de rangement adéquat dans une bibliothèque. Rangement par ordre alphabétique, par format, par genre, par discipline, par collection, par langue, pour les petits, les grands, les intellectuels, les novices. Dans l'ordre ou le désordre, tout est mesure de mémoire, du fonctionnel ou du feeling. Cherchant l'un, on trouve l'autre. Et voici comment certains écrivains, philosophes ou éditeurs organisent leur bibliothèque. Je commence par l'éloge du désordre avec Didier Van Cauwelaert. Une maison rangée. L'expression me dérange, autant que lorsque j'entends parler d'un homme rangé. Sagesse affichée, prudence, peur de laisser affleurer la passion, la distraction, la folie, la nostalgie ou l'urgence. Je préfère le lieu qui révèle le trop-plein des jours, la lutte contre le temps qui presse, la paresse ou la concentration fébrile d'un habitant pour qui le désordre ambiant sert de rempart à l'œuvre en cours. Certes, le fouillis est parfois contre nature, de même que les individus inspirent la sympathie ou la défiance, certaines demeures aspirent à l'ordre. Ces maisons me font fuir. J'aime celles qui ont besoin d'être occupées dans les moindres recoins, investies, surchargées. J'aime les appartements caméléons où, le soir, le bureau devient table de salle à manger. J'aime les prétendus rangements qui ne sont en fait que des déplacements de désordre. J'aime les piles de papier qui se transportent sur le lit, qu'il faut ensuite débarrasser pour se coucher, les invités partis. J'aime les renforts nécessaires aux jours de pointe, ces planches et ces tréteaux qui donnent des rallonges à l'air de travail. J'aime les tas de livres à même le sol qui tendent à devenir des cloisons, toutes ces constructions provisoires qui finissent par s'incruster indispensables. Bien sûr, il arrive un moment où l'on ne peut plus rentrer chez soi, où les piles s'effondrent, où l'on ne retrouve plus rien, où l'entassement tue la liberté de manœuvre. Certains matins, quand l'envie d'être neuf dans un lieu vierge me pousse à l'exil, je me réfugie au bout du jardin dans une vieille auto anglaise où j'écris sur mes genoux, avec une vue imprenable sur le désordre victorieux qui me nargue là-bas derrière les fenêtres. Et c'est la litanie des promesses chaque jour renouvelées. Demain, je range. Il y a les adeptes du nettoyage par le vide, les grands jeteurs qui ont pour seul objectif la place gagnée. Mais pour ceux qui sont comme moi, davantage obsédés par le temps perdu que par la place gagnée, le concept de rangement se confond le plus souvent avec celui d'inventaire. Animé de bonnes intentions, muni de sacs poubelles, je me retrouve rapidement assis dans un fauteuil en train d'examiner, d'exhumer, de relire, de fouiller ma mémoire. Le désir d'élimination s'est changé en volonté de retrouvailles. La question la plus pernicieuse étant « Mais pourquoi donc ai-je gardé ça ?» Et on compulse les vieux journaux, on étudie les prospectus, on retourne dans ses mains un objet désaffecté à la recherche des sentiments qui s'y étaient logés. Ces séances de rangement me vident. Je finis par remettre les choses où elles étaient, rassembler les papiers épars dans des dossiers marqués « à trier », « à classer », voire « à jeter ». Et je sors me changer les idées. Qu'on ne me prête ni complaisance ni mérite. Le désordre n'est pas une vertu, c'est une fatalité. Le sens des priorités, le respect des urgences et l'angoisse de se laisser voler du temps par des corvées sans raison profonde empêchent malgré eux les chercheurs, quels qu'ils soient, de devenir des rangeurs. Ils ont souvent le même problème avec la ponctualité. L'ordre et l'exactitude érigés en valeur, transformés en symbole du respect d'autrui, de soi ou de l'environnement, m'ont toujours laissé un peu sceptique. tant d'égocentriques arrivent en avance au rendez-vous, tant d'esprits confus demeurent dans des lieux lisses. Les gens qui se vantent avec une autosatisfaction péremptoire d'être toujours à l'heure me sont aussi suspects que ceux qui vous affirment « Chez moi, il n'y a jamais un papier qui traîne ». Les maniaques du rangement ont généralement pour but, premier, non pas d'épargner aux autres leur désordre, mais de n'être dérangés par rien. Il m'arrive de tomber dans ce travers, de laisser se déclencher en moi des colères pour un livre, déloger un emballage incongru, un sécateur oublié sur un meuble, une pantoufle égarée. Ces allergies violentes et brèves, ces inspirations à un ordre immuable sont toujours le reflet d'un désordre intérieur. C'est lorsqu'on doute, qu'on a besoin de repères, lorsqu'on ne sait plus où l'on va, que l'on voudrait que rien ne bouge. Alors, j'essaye de m'empêcher de ranger. Le désordre ambiant est parfois le meilleur moyen de remettre de l'ordre en soi. Et pourtant, j'aime l'ordre, par Denis Tillinac, donc écrivain, éditeur et journaliste. À titre personnel, je sème et propage le désordre avec un naturel qui jadis navra ma mère et aujourd'hui désespère mes proches. Ma voiture est une décharge où grouillent des livres, du linge, des mégots et un humus de victuailles. J'en oublie. Toute chambre où je pose mes pénates ressemble aussitôt à Dresde après les bombardements et dans le train j'ai toujours de la place. L'innommable bazar que je répands décourage même les invalides. En vertu des lois de la génétique, les 4 enfants que j'ai commis suscitent tous dans le réduit une prolifération anarchique de choses impossibles à identifier, voire à atteindre. Et, en vertu d'un mimétisme dit culturel, le chien et le chat qui se poursuivent du lit au canapé en passant sur les tables contribuent sans vergogne au sac perpétuel du champ de mon intimité. On s'en accommode. Je ne survivrai pas longtemps dans un univers encaustiqué où les patins sont de mise et mes incursions sous les lustres des palais officiels me glacent les sangs. J'ai toujours peur de renverser un vase, de brûler un tapis, de tacher une robe, d'oublier une veste ou de confondre serviette et mouchoir. Bordélique, je suis irrémédiablement, et c'est le moindre de mes défauts. Pourtant, j'aime l'ordre, comme un soudard aime la Vierge, comme un clochard rêve de dormir sous un baldaquin. J'aime gâcher de l'encre sur un bureau nu, poser mon séant sur une bergère irréprochable. Ma personne disséminée aspire à l'harmonie d'un cloître, mes démesures convoitent le mirage d'un équilibre que reflèterait un intérieur rangé, des extérieurs vestimentaires blancs comme neige. Bach ou Vermeer remuèrent en moi le songe invincible d'une paix des armes sonores ou visuelles. J'aime follement la vie, j'aimerais sûrement la mort. J'aime l'ordre comme l'horizon inaccessible d'un Éden où la prolifération monstrueuse du cosmos se résoudrait dans l'unité perdue depuis, au moins, les pré-socratiques. À ce titre, les femmes qui rangent avec une obstination maniaque me sont aussi nécessaires que celles qui dérangent sans s'en apercevoir. Autant dire la fatalité de ma dépendance. Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, voici ce qu'il dit. Pour organiser ma bibliothèque, j'ai dessiné mentalement la carte du monde sur les étagères. J'ai créé des rayons Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique, Asie, Océanie, Europe. Si j'ai besoin d'un livre sur l'Afrique du Sud, il me suffit de puiser dans les rayons les plus bas, c'est-à-dire les plus au sud de mon département Afrique. Si je cherche un ouvrage sur les Iroquois, je m'oriente vers les rayons plutôt élevés et à droite de ma bibliothèque, Amérique du Nord. Ce classement a parfaitement bien fonctionné pendant des années. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'afflux de nouveaux livres, il est en train de péricliter. et je suis trop vieux pour me lancer dans un grand rangement. » Benoît de Groult, elle nous disait, « J'ai plusieurs bibliothèques, mais celle qui me tient le plus à cœur est ma bibliothèque féministe, qui se trouve dans mon bureau et est accessible uniquement par une petite échelle. Il y a 4 murs couverts de livres de femmes et sur les femmes. Ils sont classés de façon thématique, biographie, mémoire, sexualité, pornographie, religion, célibat. Il y a même un rayon « Femmes étouffées » qui concerne des femmes comme Camille Claudel ou Fanny Stevenson, dont le génie a été bâillonné par les conventions. Quant aux autres bibliothèques, elles sont comme les chaises de Ionesco qui s'empilent. Je suis obligée d'acheter de nouveaux rangements tous les ans. Chaque fois, je me dis « Ouf !» Et 6 mois après, il faut que je recommence. Arnaud Annie. J'ai plusieurs bibliothèques. Dans mon bureau, j'ai rassemblé les revues, les études critiques, les ouvrages qu'on m'a dédicacés ou que l'on a écrits sur moi, et enfin, tous mes livres au format de poche que j'ai classés par thème. Le théâtre, le surréalisme, le nouveau roman, la poésie, le journal intime, les grandes biographies. Dans le séjour, j'ai une grande bibliothèque littéraire classée alphabétiquement. J'ai séparé les ouvrages étrangers des romans français, exception faite de la collection Blanche de Gallimard, des éditions de Minuit et des éditions POL, que je ne me suis pas résolue à éparpiller. Cela crée des rayonnages blancs très agréables à regarder. J'ai aussi rassemblé tous mes pléiades. Ils sont rangés par siècle. Dans le salon, j'ai également une petite bibliothèque vitrée où j'ai mis à l'abri les volumes auxquels je tiens, comme la collection reliée du Club français du livre. Cela fait un peu bourgeois, mais que voulez-vous, je l'ai acheté à crédit quand j'étais étudiante. Jean-Pierre Engremy, qui fut entre autres écrivain et membre de l'Académie française. J'ai plus de 20 000 livres. Mon fonds principal est constitué de 3000 romans du XVIIIe siècle en édition d'époque qui sont rangés sans ordre particulier. Je m'habitue progressivement à leur présence sur les rayonnages. Le deuxième ensemble est constitué par les éditions originales du XIXe et XXe siècle, rangées par auteur mais sans classement alphabétique. J'ai regroupé ailleurs toutes les séries des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, comme par exemple mes 42 volumes du Cabinet des Fées. Quant aux livres ordinaires, ils sont dans le plus grand désordre, si bien qu'en général, quand j'ai besoin d'un livre, je le rachète. Le seul classement digne de ce nom concerne mes cassettes vidéo. J'en ai 25 000 et elles sont toutes répertoriées sur ordinateur. Dominique Antoine Grisoni, éditeur. J'ai commencé à organiser ma bibliothèque il y a 20 ans, quand je me suis aperçue que je ne parvenais plus à me souvenir de l'emplacement de mes livres, le jour où je n'ai pas retrouvé les liaisons dangereuses. Je m'y suis mis. J'ai créé des bibliothèques par discipline. Le rayon histoire est classé par période, et à l'intérieur de ces périodes, par temps fort. Nazisme, fascisme, stalinisme, etc. Ma bibliothèque philosophie est rangée par ordre alphabétique, avec une séparation entre les textes et les études. J'ai aussi plusieurs bibliothèques thématiques, une consacrée aux intellectuels, une à la démocratie, ce qui suscite parfois des doublons. Les fragments d'un discours amoureux de Barthès se trouvent à la fois dans ma bibliothèque philosophie et dans ma bibliothèque amour. Même chose pour Bataille, mon auteur préféré. On le retrouve en amour, en littérature et en philosophie. Comme cela, je suis toujours sûre de l'avoir à portée de main. Philippe Touron, responsable du Divan, la librairie Le Divan à Paris. En France, ce qui est le plus important, à la fois symboliquement et commercialement, ce sont les ouvrages de littérature française. C'est pourquoi nous les avons classés tout de suite en entrant, par ordre alphabétique. Cela concerne essentiellement la littérature des 19e et 20e siècles, dans la mesure où les classiques disponibles en collection de poche sont rangés dans l'espace Pochothèque. En face, la littérature étrangère est classée par ordre alphabétique. Les ouvrages critiques, biographies et essais sont intégrés dans la bibliothèque littéraire. Car il nous paraît plus commode pour l'acheteur de trouver au même endroit Proust et son commentaire. Les ouvrages de poésie ayant toujours constitué un point fort au divan, nous leur avons réservé un rayon spécifique. Idem pour la psychanalyse, le théâtre ou le polar, qui bénéficient d'un grand espace autonome. Le rayon Beaux-Arts est divisé en plusieurs sections. Les monographies sont rangées par ordre alphabétique d'artistes. Un ouvrage de Leuze sur Francis Bacon est classé à Bacon. Les diverses histoires de l'art sont regroupées, de même que les ouvrages sur les grands mouvements, impressionnisme, symbolisme, etc., ou sur les grands musées. Enfin, dans chaque rayon, il existe des collections très appréciées du public que nous présentons séparément. L'univers des formes en art, la Pléiade en littérature, les découvertes Gallimard au rayon poche.
Color FM 97.1.
Stéphane Olivier, écrivain et conteur, prête sa voix à Marcello Arrigilli. Écoutons-le dans des extraits de Nouvelles d'aujourd'hui. Stéphane Olivier, écrivain et conteur, prête sa voix à Marcello Arrigilli. Écoutons-le dans des extraits de Nouvelles d'aujourd'hui.
Pour que les gens ne pensent pas aux ennuis qu'ils avaient, aux choses qui allaient de travers, et ne commencent pas à protester, le maire de la ville avait fait construire une grandiose station de télévision qui, jour et nuit, émettait sans interruption sur 12 chaînes toutes en couleur. Les gens s'étaient à tel point habitués à regarder la télé que, aussitôt le travail fini, ils se précipitaient tous chez eux avec une seule idée en tête, s'asseoir devant l'écran et rire, pleurer, applaudir ou siffler selon les programmes. Le maire était satisfait. Du matin au soir, personne ne pensait plus à rien. Mais le fonctionnement de ce grand centre de télévision coûtait très cher. Et si on essayait d'économiser un peu, se dit-il. Il fit réduire le nombre des chaînes à 6, puis à 4, puis à 2. Les gens continuèrent à rester dans leur fauteuil devant le téléviseur, même quand il ne resta plus qu'une seule chaîne. Et en regardant ce programme unique, ils disaient tous « Tant mieux, maintenant au moins nous n'avons plus l'embarras du choix ». Pour économiser encore, le maire fit supprimer la couleur et tout le monde continua à suivre les programmes en noir et blanc. « C'est plus reposant, disait-il. Comme ça, les yeux ne se fatiguent pas. » Il fit couper le son, ne laissant que l'image. « Quel progrès fait la télévision, dirent les gens. On n'est plus étourdi par tout ce vacarme. » Enfin, le maire fit enlever l'image. Il ne subsista plus sur l'écran qu'un rectangle lumineux immobile. « Les programmes s'améliorent sans cesse, dirent les gens. Plus besoin de se fatiguer à les suivre. » Et ils sont toujours là, en train de contempler l'écran vide. Après le repas, il alluma le téléviseur et s'installa dans son fauteuil, se préparant à savourer un spectacle agréable. Mais lorsque l'écran s'alluma et qu'apparurent les images, au lieu des acteurs, il vit quelque chose qui le laissa abasourdi. C'était lui qui venait d'apparaître sur l'écran, lui-même, assis exactement dans la position qu'il avait devant le téléviseur. Voyons, c'était impossible, absurde! Il ne pouvait s'agir que d'un sosie, d'un acteur qui lui ressemblait comme une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau. Déconcerté par cette extraordinaire ressemblance, il se gratta instinctivement la tête, et voilà qu'il se produisit quelque chose d'encore plus bouleversant. Le personnage de l'écran se grattait lui aussi la tête exactement avec le même geste. Alors ce n'était pas un sosie, c'était vraiment lui. D'ailleurs, il portait la même robe de chambre. Et le décor était rigoureusement identique à celui de la pièce où il se trouvait. Il reconnaissait très bien le fauteuil, le divan, le tableau accroché au mur. « Restons calmes, pensa-t-il. S'il apparaissait ainsi sur l'écran, il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Une caméra cachée dans la pièce était en train de le filmer. Il la chercha partout. Et tout en farfouillant dans les moindres recoins, du coin de l'œil, il continuait de se voir exécutant tous ses gestes à la télé. Force lui fut d'admettre qu'il n'y avait pas de caméra cachée. Et pourtant, il se voyait toujours à l'écran. Il frissonna. Une pensée soudaine accrut sa panique. S'il apparaissait ainsi à l'écran, ça voulait dire qu'en ce moment même, la nation tout entière le voyait. À cette idée, il se sentit nu comme un ver devant des millions de personnes. Il courut éteindre le téléviseur et se blottit dans son fauteuil. Il n'osait plus bouger, angoissé à l'idée que l'on puisse encore le voir. Pour en avoir le cœur net, il prit son courage à deux mains et ralluma l'appareil. L'écran s'éclaira et il y défila cette inscription « Veuillez nous excuser pour cette interruption, la suite du programme dans quelques instants. » L'inscription disparut, faisant place à l'image, toujours la même, c'est-à-dire lui, blotti dans son fauteuil. « Enfin quoi, c'est impossible » balbutia-t-il. Mais il ne fut pas le seul à dire cela, son image à l'écran le dit aussi. Alors, cédant complètement à la panique, il perdit la tête. Il empoigna un marteau, et son image aussi l'empoigna. « Assez » cria-t-il. « Assez » répéta en écho la télé. Il brandit le marteau pour détruire cet appareil infernal et son image le brandit également. Mais ce marteau qui s'abattait sur l'écran, il ne put le voir. En effet, il sentit un grand coup sur la tête et s'écroula par terre. Maintenant, ça suffit. Ferme ce livre. Ça fait 3 heures que tu lis. Regarde donc un peu la télévision, suppliaient les parents. J'en ai horreur. Elle est ennuyeuse. Moi, regarder cette saleté, jamais, répondaient tous les enfants, garçons et filles. Si vous tenez absolument à lire, au lieu de livres, lisez au moins des bandes dessinées, recommandaient les enseignants à l'école. Elles sont stupides, répondaient les élèves. « Ce qui nous plaît, à nous, ce sont les romans, les contes, les poésies. » Dans ce pays, tous les enfants dédaignaient les bandes dessinées. C'étaient les livres. Ils en lisaient partout, à la maison, dans les interclasses, dans la rue, au jardin public, dans l'autobus et même au cabinet. Parents et enseignants étaient très inquiets. « Ça fait mal aux yeux de lire » criaient-ils. À force de rester penché sur les livres, on devient bossu. Les livres ne sont pas éducatifs, tenaient les enseignants dans les écoles. Les contes sont morbides, ils nuisent à l'imagination, ils favorisent la délinquance. Égare à vous si, quand vous serez plus grand, vous vous avisez de lire Homère, Shakespeare ou Victor Hugo, dont les livres sont pleins d'histoires de guerre, de violence, de tortures sadiques ou de tueries. Afin de les détourner des livres, à Noël, à Pâques, pour leur anniversaire, parents et amis offraient aux enfants des téléviseurs dernier modèle, des magnétoscopes, des paquets d'illustrés aux couleurs éclatantes. Peine perdue, les gamins ne daignaient même pas y donner un coup d'œil. La passion pour les livres étant considérée comme un vice dangereux, on eut recours à des mesures sévères. Dans les écoles, on institua l'heure de désapprentissage de la lecture, au cours de laquelle les enseignants imposaient la vision et le commentaire d'un épisode de série télévisée, des exercices sur des films policiers et donnaient en devoir à faire à la maison le résumé d'une émission de variété ou d'un dessin animé. Mais cela aussi fut inutile. En classe, les enfants, ne résistant pas à la torture des projections, fermaient les yeux et à la maison, personne ne faisait ses devoirs insupportables. Constatant que l'heure de désapprentissage de la lecture ne fournissait pas les résultats espérés, on recourut à des mesures encore plus draconiennes. On promulgua une loi qui interdisait la lecture des livres, imposait la fermeture des bibliothèques et punissait sévèrement quiconque était surpris en possession d'un livre. La réaction des enfants fut immédiate. Ils organisèrent la diffusion clandestine des livres. et s'adonnèrent à leurs passions effrénées en les lisant en cachette dans les caves ou dans les bois. Mais ils ne s'en tinrent pas là. Ils organisèrent des manifestations de protestation avec des pancartes et banderoles qui disaient « Rendez-nous nos livres !»« Lire des livres, c'est vivre libre !»« Robinson, Pinocchio, Alice font nos délices !» Andersen, Jules Verne, Rodari sont nos meilleurs amis. Les cortèges parcouraient tumultueusement le centre-ville en criant des slogans menaçants. À bas la censure, vive la lecture. Lecture, culture, à bas la dictature. Des délégations d'enfants exigèrent d'être reçues par le président de la République. Devant leur obstination, le président proposa un compromis. Je vous accorderai la permission de lire des livres une heure par jour. À condition que, pendant une autre heure, vous lisiez des bandes dessinées, et que pendant une autre encore, vous regardiez la télévision. Les enfants, indignés, refusèrent. « Lecteur libre et sans condition !» crièrent-ils. La loi anti-lecture n'ayant pas été retirée, ils en arrivèrent à la guérilla. Ils jetèrent les téléviseurs par les fenêtres, placèrent des bombes sous les antennes, et dans les studios de télévision, mirent le feu aux kiosques qui vendaient des bandes dessinées. On institua alors des tribunaux spéciaux qui infligeaient des peines très sévères. Après avoir prononcé sa sentence, le juge, dans l'espoir que le condamné reviendrait à de meilleurs sentiments, lui disait « Repens-toi, jure que tu regarderas la télévision, ne serait-ce que 5 minutes, et tu auras la vie sauve. » Mais les condamnés restaient inébranlables. « Jamais, plutôt la mort !» s'exclamait-il, et il montait à l'échafaud, en chantant gaillardement « Allons enfants de la lecture, le jour de gloire est arrivé ». Ils étaient certains d'aller tout droit au paradis des lecteurs. Comme elle avait une mémoire formidable, elle l'exploita en inventant un beau métier, et original par-dessus le marché. Il consistait à rappeler les choses aux autres. Les gens allaient chez elle, ou lui téléphonaient. « Le 29 mars prochain, je dois aller voir mon oncle Antoine, » disait telle personne. « Pensez bien à me le rappeler, sinon il va se mettre en colère. »« S'il vous plaît, » disait telle autre. « Dans 3 semaines, le 13 mai, c'est la fête de ma grand-mère. » Je ne veux pas risquer d'oublier de lui faire un petit cadeau. Dans 2 mois sortira en librairie le roman de mon auteur préféré. Je l'ai commandé, faites-moi penser à aller le chercher. » Et ainsi de suite. Son travail consistait à téléphoner la veille ou le matin même pour rappeler aux clients ce qu'ils avaient à faire. « Allô, je vous rappelle que demain matin, vous devez vous présenter chez le notaire pour cette affaire de succession. Allô, ce soir à 7 heures précise, vous avez rendez-vous chez le dentiste. Allô, c'est la rappeleuse. » N'oubliez pas de prendre votre médicament avant le dîner, 10 gouttes dans un demi-verre d'eau. Ses tarifs étaient modestes, mais les clients étaient nombreux, et ma foi, elle gagnait assez bien sa vie. En outre, grâce à sa formidable mémoire, ce travail ne lui posait aucun problème. Mais, au fil des ans, sa mémoire se mit à décliner. N'arrivant plus, comme jadis, à retenir par cœur les dizaines de coups de fil à passer chaque jour, elle s'acheta un agenda et les marqua. Seulement voilà. Au bout d'un certain temps, elle commença à oublier même l'endroit où elle avait mis l'agenda. Et il lui arriva parfois de sauter certains coups de téléphone qu'elle devait passer. Naturellement, après 2 oublis, elle perdit les clients les plus exigeants. Elle dut renoncer à l'agenda. Prête à tout pour continuer son travail, elle se résigna alors à diminuer ses tarifs. Quand quelqu'un demandait de lui rappeler une chose, elle répondait « Entendu, mais vous devriez me téléphoner la veille, ou le matin même, pour me rappeler la chose à vous rappeler. Si vous êtes d'accord, je vous fais un rabais, vous paierez moitié prix. » Bien entendu, elle perdit encore des clients, mais sa mémoire allait de plus en plus mal. Désormais, elle oubliait même de téléphoner quelques heures après que le client lui avait rappelé la chose à rappeler. Et pour une rappeleuse, c'était vraiment le comble. Elle finit par perdre tous ses clients. Maintenant, vieille et totalement dépourvue de mémoire, de temps à autre, elle se demande « Au fait, quel métier faisais-je ? Il me semble qu'autrefois, il y avait une dame qui se chargeait de rappeler les choses. Oh, si j'arrivais à me rappeler son nom, je pourrais le lui demander à elle.
Couleur FM.
Stéphane Olivier, écrivain et conteur, prête sa voix à Annie Saumon dans un extrait de son livre « Le lait est un liquide blanc ».
Les spécialistes du chalumeau, les casseurs de bateaux, les cueilleurs de thé à Ivoa, les marchands de pieuvres à Rio de Vigo, les porteurs de charbon à Danbad, les planteurs de cacao à Itabuna, les ouvriers des hauts fourneaux, les gauchos dans la Pampa, les croupiers à Monaco, les maroquiniers chinois. Toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Ses parents, les premiers, ont posé la question. Et puis l'institutrice. Et après, au collège, le conseiller d'éducation. Même les camarades de classe, même les copains de la rue, parfois, ça les prenait. Qui disaient « Moi, quand je serai grand, je ferai ceci ou cela. » Ou encore qui demandaient « Et toi ?» Il veut jouer avec le sable. Le laisser glisser entre ses doigts, contempler le flot des grains minuscules. Serrant la main sur une autre poignée de sable rose et léger, lui redonner à volonté une solidité passagère. « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»«
Moi ?
Quand ?
Plus tard, c'est quand ? » ?»«
Eh bien, lorsque tu seras grand. »«
Moi, grand ? » ?»«
C'est tellement loin. » Il veut jouer avec l'eau. L'eau de la cuvette à défaut d'une mare, d'un lac, à défaut d'une mer. Il veut de sa main mouillée caresser le visage de Christa, la petite fille cueillant les fleurs du jardin d'à côté. Il veut faire couler l'eau en perles contre sa peau et puis sous son t-shirt, et elle dira que c'est frais, c'est bon, ça chatouille. Ceux qui démêlent la laine à Custanet, ceux qui fabriquent des roues de bicyclette, ceux qui castrent les maïs, ceux qui distillent le vétiver, ceux qui pêchent le thon à Traparou, ceux qui lavent les vitres à Chicago, ceux qui chargent les valises à Bangkok, ceux qui bradent des tapis à Créteil, ceux qui ont construit le canal du Rajasthan, long de 900 kilomètres. Plus tard, qu'est-ce que tu feras ? Tu devrais t'en soucier. Pense à ton avenir. Que veux-tu faire ? Réfléchis. Il veut courir, pour rien. Danser, pour rien. Chanter, pour rien. Quand ça lui plaît. Il veut s'enivrer de parfums. Il veut voir se déchirer la brume et des sommets enneigés resplendir dans la déchirure. Il veut regarder butiner les abeilles, guetter le passage des oiseaux migrateurs. Il veut contempler le soir un ciel qui se remplit d'étoiles. Il veut écouter le vent qui sèche le linge et agite les drapeaux. Il veut lécher délicatement la crème glacée, pistache framboise, dans un cornet en gaufrette. Les tonneliers, les concierges, les garçons de café à Berlin, les briquetiers, les cardeurs, les charpentiers, les cireurs de chaussures à Mexico, les repiqueurs de riz au Cambodge, les exposants au rayon bricolage du BHV Rivoli, les vigiles du Crédit Mutuel, les avocats, les ethnologues. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?
Toi, c'est pour préparer ton dossier. Une fiche avec ton nom, ta date de naissance aussi, le lieu où tu es né, le pays qui est le tien.
Il dit « Je serai roi » de ce pays, sinon d'un autre, ou penseur, ou poète. Il dit « Je serai amoureux ». Il l'est déjà. Elle est mince et blonde. Elle a grandi, Christa. Il dit « Je serai amoureux d'une fille blonde au cœur tendre ». Elle l'embrasse. Elle l'accueille dans son lit. Après l'amour, elle est paisible et rieuse. D'un doigt, il effleure ses lèvres. Elle ne bouge pas. Il dit « Nous deux, un jour ». On pourrait se marier. Elle chuchote que sur les papiers à remplir avant les noces, on inscrit la profession du futur chef de famille. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?
Il dit, tu le sais, Christa.
Demain, la semaine prochaine, le mois prochain et toutes les années à venir, je veux dormir dans tes bras. Ceux qui supportent, ceux qui portent, ceux qui soulèvent, ceux qui lèvent, ceux qui lancent, ceux qui attrapent, ceux qui vident, ceux qui remplissent. Ceux qui montent, ceux qui démontent, ceux qui battent, ceux qui débattent, ceux qui écrivent et décrivent. On le presse de répondre, on le raisonne, on insiste. Bien plus tard, quand tu seras vieux,
Tu t'assieras sur un banc au soleil pour lire ton journal et fumer ta pipe. Mais avant, que vas-tu faire ? Et encore, il dirige son regard vers le ciel comme s'il espérait trouver une réponse dans la lente dérive des nuages. Il consulte des livres. Là, il découvre les histoires des chercheurs d'or. Et il dit qu'il cherchera de l'or dans les rivières. Des histoires d'explorateurs. Et il dit qu'il explorera, que le monde est immense, ça suffira pour l'occuper, qu'il en fera le tour en 80 ans. Les marins, les huissiers, les informaticiens, les juges assermentés, les cartographes, les préposés à l'enregistrement, les visiteurs de prison, les chauffeurs routiers, les employés de bureau, les chefs d'études du génie civil, les boxeurs poids moyen, les pilotes de ligne. Christa vient d'avoir 18 ans. Elle est vendeuse chez Marjolaine Tissu. Elle propose à sa clientèle des toiles et draps et soieries. Elle vend des kilomètres de voiles en tergale, un matériau lavable, souple et fluide, infroissable et pas cher. Elle mesure, elle coupe. Elle dit qu'elle a soin d'ajouter un centimètre à la longueur nécessaire afin d'éviter les réclamations. Ce sont des femmes qui achètent, des ménagères bien dessinées à obtenir leur dû. Mais pour le rab, gare aux excès, la patronne sanctionnerait le gaspillage. Non, la patronne de Marjolaine Tissu ne s'appelle pas Marjolaine, mais Madame Jeannine Durand. Christa obéit à ses ordres. « Oui, voilà ce que je fais, moi, » dit Christa. « À toi de dire à présent. » Il se ronge les ongles et marmonne. Il dit qu'il est demandeur d'emploi, qu'il fera n'importe quoi, qu'il ira se présenter à la mairie dans les bureaux spécialisés, qu'il étudiera toute offre, qu'il lira les petites annonces, qu'il passera des tests, rédigera des curriculums, posera sa candidature pour des stages de formation. Plus tard, un peu plus tard. Les autres disent « un tien vaut mieux que… » Et aussi, ne jamais remettre à demain ce qui… Il dresse l'inventaire de métiers disparus. Poinçonneur des tickets de métro, allumeur de réverbères, raccommodeur de porcelaine, gabier, maître de poste, mineur de fond, télégraphiste. Il attend Christa à la porte du magasin. Madame Jeannine Durand de Marjolaine Tissu le trouve à son goût, lui sourit. Un jour, elle l'aborde. Très vite, lui fait savoir qu'elle aimerait l'associer à ses affaires de tissu. Et bientôt, de cœur et de sexe. Il ne dit mot. Elle évoque avec enthousiasme les attraits de la profession, parle bordereaux, bilans et factures. Elle laisse entendre qu'une femme d'âge mûr, florissante, expérimentée, menant fort bien son commerce, a de sérieux avantages sur une Christa naïve et palote, sans guère de seins ni de fesses, définitivement condamnée à un emploi subalterne. Ceux qui travaillent, ceux qui bossent, ceux qui triment, ceux qui marnent, those who work, los que trabajan. Christa prend son parti de voir en lui désormais le prince consort au royaume des tissus marjolaines. Elle obtient en compensation une modeste prime de rendement. Parfois, il rôde entre les étalages où les étoffes mêlent leurs couleurs, et s'il juge que le brun foncé de la bure n'est pas en parfaite harmonie avec le bleu étincelant d'un lamé, il ne dit rien. Il flâne, il palpe et caresse. Mais un soir, c'était plus tard, c'était hier, à l'arrivée d'un plein camion de cotonnades, Zéphyr Créton, Vichy indienne, de Lainage, Cheviot Ratine, Serge Alpaga, et le camion arrêté au carrefour bloquait la circulation, et l'agent de service sifflait comme un zombie. Elle a dit étourdiment, la pulpeuse Madame Jeannine Durand, qu'il ferait preuve de bonne volonté en donnant un coup de main au livreur pour décharger les rouleaux. Insistant, « Juste cette fois, je t'en prie !» Il a peiné, a transpiré. Ses bras sont gourds, ses épaules meurtries, le dos raide, les jambes tremblantes, la tête vide. Il s'assoit dans un fauteuil du petit salon d'attente où Madame reçoit d'ordinaire les représentants de commerce. Il ouvre au hasard un des magazines posés sur la table basse. Le mensuel, ça m'intéresse. C'est un numéro spécial artisanat, métier, carrière. Il regarde fixement la liste non exhaustive des victimes consentantes d'une vieille malédiction. Les bobineurs, les spécialistes de l'agroalimentaire, les imprimeurs sérigraphes, les géophysiciens,
les programmeurs sur appareils à commande numérique, les peintres en bâtiment, les techniciens de surface, les bergers du COS, les ingénieurs d'études spatiales, les opticiens, les prototypistes en emballage acier, les souffleurs de verre, les éboueurs, les maquettistes. Il a gémi ce soir-là dans le lit de Madame Durand, propriétaire de Marjolaine Tissu. Endolori, rompu. Il s'est tenu à l'écart des chairs épanouies de la grosse Jeannine, qui avait dit pourtant « Tu as travaillé, tu as droit au plaisir, à la tendresse. » Il a connu autrefois le corps de Christa, si léger, si doux. Elle aussi lui demandait « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Il se levait tôt le lendemain matin. Il s'est vêtu sans bruit. Il a bu un espresso à la cuisine. Il souffrait de courbatures. Il a pris la clé du magasin accrochée à la patère. Il est descendu seul dans le grand hall obscur. Il a baissé son pantalon. Il a uriné, déféqué sur la soie et sur le velours. Il s'est enfoncé l'index dans la gorge jusqu'à la luette et il a vomi au creux des flanelles. Il s'est essuyé la bouche avec un pur laine traité antimite. Il a trouvé sur le comptoir les crayons feutres qui servent à composer les pancartes alléchantes, affaires du jour ou promotions spéciales. Il a tagué les shantung barbouillés d'encre, les plumetis délicats. Il s'est emparé des ciseaux. Il a détaillé un coupon de satin en milliers de rubans. Donc, il est occasionnellement capable d'accomplir une action s'inscrivant dans la logique évolutive d'un projet cohérent, diront les autres, après examen et réunion de synthèse, qui à leur tour lui posent des questions. La question, que veux-tu faire? Il a soupiré, laissez-moi. Et puis encore, sur l'affiche, quelqu'un a fini par écrire « inadapté ». Quelqu'un a dit, levant la tête, « Nous pourrons le garder s'il n'est pas agressif ». Madame Jeannine Durand, de Marjolaine Tissu, a congédié Christa pour faute professionnelle. Christa omettait chaque jour de ranger dans le tiroir les crayons feutres et les ciseaux. On le garde. Il n'est pas agressif, n'a présenté qu'une seule requête. Il a prié qu'on le dispense des quelques activités qui lui étaient proposées dans un but thérapeutique.
Couleur FM 97.1.
Nous, cette année, on va pas en vacances. Pas Emma traverse une mauvaise passe. L'été dernier, on est allé au bord d'un lac. C'est-à-dire qu'on habitait quand même un peu loin du bord, dans la maison d'une dame qui louait des chambres. Des chambres d'hôtes, elle disait. Pas Emma en avait loué une pour eux, et pour moi un cagibi. On était les seuls pensionnaires. Il y avait une autre chambre à louer, mais pas Emma ont trouvé que, vu mon âge et ma taille, le cagibi, ça suffisait. Je trouvais aussi. Je dormais sur un lit de camp. Dans le cagibi, sans fenêtre. La dame a dit que je pouvais laisser la porte ouverte sur le palier. Ou autrement, ça aurait manqué d'air. Toute la journée, je m'en mettais plein les poumons de l'air. Je filais jusqu'au lac dans la forêt. J'emmenais ma canne à pêche. J'ai une ligne en nylon avec un flotteur et des plombs et un hameçon très piquant. Les vieux types qui pêchaient dans le lac, des fois, ils se payaient ma pomme. Ils baratinaient. « Jeune homme, tu vas te faire emporter par un esturgeon. Pourquoi t'irais pas plutôt jouer au foot ?»« J'aime pas le foot. J'aime mieux la pêche. » Ma, elle disait qu'il était beau ce lac. Elle disait « Oh lac, rocher muet, oh forêt obscure !» Souvent, elle parle en poème. Moi, je regardais le bouchon de ma ligne. Je pensais qu'à le surveiller. Et puis à ce que Ma avait mis dans les sandwichs. J'avais pas encore faim, vraiment. J'avalais des pines de tartines au petit-déj. On le prenait avec la logeuse. Ça s'appelle la demi-pension. Ça comprend aussi le repas du soir, et à midi, on se débrouille avec des trucs qu'on achète. Le matin, Pa et Ma se lavaient sous la douche, et ils s'habillaient propres pour descendre à la salle à manger. Il voulait que je sois astiqué, avec un short impec. Le premier jour, ça m'a paru drôle de voir que la logeuse, elle était encore en peignoir, les cheveux tombant sur les yeux. Elle avait une tignasse ébouriffée, des beaux yeux sous les cheveux, des seins qui remuaient quand elle marchait. C'était les vacances. L'année dernière. Cette année, on va pas en vacances. Moi, ça m'est égal. J'aime la pêche, mais j'aime aussi jouer dans la rue. Oui, ma, d'accord, j'attends le bonhomme vert pour traverser. Voilà, c'est passé piéton, je traverse. Pas Emma traverse une mauvaise passe. Ces mots-là me restent dans la tête. Grand-mère, elle les avait dit en se tripotant le menton et à les poils qui chatouillent. Avant, quand tout allait bien, Ma lui faisait de temps en temps une petite épilation. Grand-mère a dit aussi « Yann, ne mets pas tes doigts dans ton nez, s'il te plaît. Tu vas remonter jusqu'à ton cerveau, tu vas l'esquinter. » Je les ai enfoncés assez profond déjà pour savoir que c'est fermé là-haut. Mes doigts passeront pas au travers. Pas Emma traverse une mauvaise passe. L'année dernière, aux vacances, je pêchais de la lune dans le lac. C'est Ma qui disait ça. « Mon gentil pêcheur de lune », elle m'appelait. Elle parlait en poème. Au vrai, j'ai pêché seulement une épinoche et deux chevennes. Pas lui, fallait toujours qu'il se promène avec Ma dans la forêt autour du lac. Ma disait « Hier, on s'est aventuré trop loin, j'ai une ampoule au talon. » Quand il rentrait, couvert d'aiguilles de pin, il disait qu'il s'était offert une bonne sieste. Que la forêt était si tranquille, personne venait les déranger dans leur sommeil. Mais après, je me souviens pas combien de jours après, et pourtant je comptais les jours et aussi les poissons, voulant savoir comment ça mordait pour les autres, les vieux types autour du lac, et comment je me classais, vu que j'avais pris jusque-là un demi-poisson quotidien en faisant la moyenne des jours sans et des jours avec. Donc après, il avait plus envie de se balader dans la forêt, pas. Il aimait mieux traîner dans le jardin de la logeuse, qui répétait qu'on pouvait déplier les chaises longues sur la pelouse. Il disait à Ma, « Emmène le petit au bord du lac. Je me repose un peu, je vous rejoindrai plus tard. » Ma et moi, on est allés. Ma, elle pêchait pas. Elle regardait le lac, elle disait, « Autant suspends ton vol. » Du parler en poème. Mais quand le temps est suspendu, on doit finir par s'embêter au bord d'un lac, à seulement regarder. Bientôt, elle m'a dit « Je te laisse ». Et j'ai dit « Ciao ». Elle est partie retrouver Pa. Dans le jardin de la dame ébouriffée, voilà qu'elle a découvert que la chaise longue de Pa était toujours pliée. Alors, à ce qu'elle m'a raconté, elle a couru vers la maison. Et puis elle a soupiré. Non, Yann, le reste, c'est des histoires de grandes personnes. Après, elle s'est remise à parler en poème, disant que c'était comme si la femme au peignoir lui avait pris le cœur entre ses mains et crac, qu'il est brisé, n'y touchez pas. Et aussi que parfois la poésie, ça aide. Voilà ce qu'elle disait quand elle est revenue au lac où je pêchais. J'avais rien attrapé. Son cœur brisé. Elle l'a dit plutôt cool. Arrêté, le dos appuyé au grillage qui nous barrait le chemin, un raccourci que j'avais repéré. Puis elle a dit encore « Non, Yann, que c'était impossible de passer, on va prendre par le travers du bois. » Pas Emma traverse une mauvaise passe. Ma a déclaré qu'elle et moi, on rentrerait à la maison, dès le lendemain, par le quart de 8 heures. Moi, j'ai demandé « Et pas ?» Elle a dit que pas ferait ce qui lui plairait. Pas s'est retenu de râler lorsque Ma a annoncé que la table d'hôte, ça veut dire partager le souper avec la logeuse au gros néné, était ce soir hors de question. On mangerait dans la chambre, du pâté de foie tartiné sur du pain. Pas boudé dans son coin, preuve qu'il y avait déjà eu la bagarre. Ma et Pas se causaient plus. Le lendemain, Ma et moi, on a raté le quart. C'était un peu ma faute, je me suis pas bousculé. Ma, elle a quand même dit... Oui, elle voulait bien que Pa nous ramène à la maison dans sa Ford. Le jour suivant, il est parti. Avec sa Ford. Et puis une valise. Il a dit à Ma, je t'enverrai des chèques. C'était la fin de l'été. À l'automne, en hiver, au printemps, les chèques sont arrivés. Des fois, Pa se pointait aussi. m'a disait « Comment va la très chère, la très belle qui remplit ton cœur de clarté ?» Et plus bas, « Comment va ta pétasse ?» Pas hausser les épaules. Il profitait d'un congé pour voir où j'en étais de mon éducation, disait-il, et pour s'assurer que ma s'en tirait. Elle s'en tirait, merci. Elle tenait la maison, elle faisait les courses et la tambouille, raccommodait mes affaires, me grondait quand à l'école j'étais puni, me donnait du sirop quand j'avais mal au ventre. Le soir, elle lisait des poèmes. Surtout les soirs des jours où pas était venu et reparti. Un matin, j'ai vu que la Ford de pas, il m'avait dit au revoir la veille comme je l'embrassais à l'heure d'aller au lit. Sa bagnole déglinguée était encore devant la barrière de la cour. Et dans la cuisine, j'ai vu pas, assis à sa place d'autrefois, qui prenait son petit-déj. Il a dit « Grouille-toi, Yannou, tu es en retard !» Le temps a suspendu son vol. Puis tout s'est remis à être comme avant. Sauf que cette année, on va pas en vacances. M'a dit que c'est terminé ce genre de plaisanterie. Elle le répète en arrachant les poils du menton de grand-mère avec la pince à épiler. Grand-mère crie « Ouille !» J'enfonce mes doigts dans mon nez et grand-mère chante son refrain « Tu vas t'abîmer la cervelle !» Tout le monde se barre, nous on reste. Ça m'est égal. Je joue dans la rue, j'attache une ficelle au bout d'un bâton pour attraper les esturgeons du caniveau. Ma, elle me dit plus de faire attention. Elle est trop occupée à s'occuper de pas. Elle dit qu'il faut maintenant qu'elle le soigne, parce que cette femme des vacances de l'été dernier au bord du lac où je pêchais, quelquefois, des ablettes, cette espèce de sorcière cruelle, a pris le cœur de pas entre ses mains et crac, il s'est brisé. Voilà comment elle parle, ma. Pas lit son journal. La mauvaise passe qu'il traversait, on dirait que c'est passé. On va pas en vacances. Bon, je m'en fiche, je vivrai dans la rue, il y a de l'air. Je sors en claquant la porte. J'attends pas toujours que ce soit passé piéton pour traverser.
Stéphane Olivier, écrivain et conteur, prête sa voix à Ray Bradbury dans l'extrait « La grande route » de son livre « L'homme illustré ».
La pluie rafraîchissante de l'après-midi avait couvert la vallée, humectant le maïs dans les champs de la montagne, tapotant la paille qui formait le toit de la hutte. Dans l'obscurité mouillée, la femme écrasait des grains entre deux pierres de lave avec des mouvements réguliers. Un bébé pleurait quelque part. Hernando attendait que la pluie cessât de tomber pour qu'il pût recommencer à labourer avec sa charrue de bois. En bas, la rivière, brune et épaissie, bouillonnait. La route en ciment, autre rivière, ne coulait pas. Elle gisait, luisante, vide. Aucune voiture n'était passée depuis une heure. C'était en soi un événement extraordinaire. Durant des années, il n'y avait pas eu une seule heure sans qu'une voiture s'arrêtât et que quelqu'un criât « Hé, là-bas, on peut vous prendre en photo ?» Quelqu'un avec une boîte à déclic et une pièce à la main. Si Hernando marchait lentement à travers champs sans son chapeau, quelquefois, il lui criait « Hé, on voudrait vous prendre avec votre chapeau !» Et ils agitaient leurs mains, riches de choses en or qui disaient l'heure, ou qui les identifiaient, ou qui ne faisaient rien, sinon de cligner comme des yeux d'araignée au soleil. Alors il s'en retournait chercher son chapeau. Sa femme dit « Quelque chose qui ne va pas, Hernando ?»« Si, la route. Un gros événement. Très gros pour rendre la route aussi vide. » Il s'éloigna de la case avec une souple lenteur. La pluie lavait ses chaussures faites d'herbes tressées et d'un épais morceau de pneu. Il se rappelait très bien l'incident de cette paire de chaussures. Le pneu était arrivé brusquement dans la case, une nuit, faisant sauter les poules et les pots. Il était arrivé en roulant très rapidement. La voiture avait poursuivi sa course jusqu'au tournant, était restée un instant suspendue dans la lumière réfléchie de ses phares avant de plonger dans la rivière. Elle y était encore. On pouvait la voir les jours favorables quand la rivière était ralentie et que la boue s'éclaircissait. Tout au fond, avec ses chromes brillants, longues, basses et luxueuses, gisait l'automobile. Puis la boue revenait et on ne voyait plus rien. Le lendemain, il avait découpé des semelles dans le pneu. Il avait maintenant atteint la route et se tenait debout, écoutant les bruits légers qu'elle faisait sous la pluie. Et soudain, comme à un signal donné, les voitures arrivèrent, des centaines sur des kilomètres qui filaient devant lui, grandes, longues et noires, en direction du nord, vers les États-Unis, rugissantes, prenant trop vite les tournants. Les avertisseurs n'arrêtaient pas. Il y avait quelque chose dans l'expression des occupants entassés à l'intérieur, quelque chose qui le plongea dans un profond silence. Il se recula pour mieux laisser passer les voitures. Il les compta jusqu'à en être fatigué. 500, 1000, et il y avait quelque chose sur leur visage. Mais ils allaient trop vite pour qu'il pût distinguer ce que c'était. Enfin, le silence et le vide revinrent. Les longs et bas cabriolets étaient passés. Il entendit le dernier klaxon mourir. La route était de nouveau déserte. On aurait dit un convoi funèbre. Mais fou, déchaîné, les cheveux dressés, lancé comme un cri vers quelque cérémonie toujours plus au nord. Pourquoi ? Il ne put que secouer la tête et se frotter doucement les doigts sur les hanches. Et voilà, toute seule, une dernière voiture. Elle avait quelque chose de très définitif. Descendant la route de montagne dans la fine pluie fraîche, soufflant de grands nuages de vapeur, arrivait une vieille Ford, aussi vite qu'elle le pouvait. Il s'attendait à la voir se défaire à tout instant. Quand cette ancienne Ford aperçut Hernando, elle stoppa, couverte de boue et de rouille, son radiateur bouillonnant avec rage. « Pourrions-nous avoir de l'eau, s'il vous plaît, seigneur ?» Un jeune homme, 21 ans peut-être, était au volant. Il portait un sweater jaune, une chemise à col ouvert et un pantalon gris. La voiture était découverte et la pluie tombait sur lui, et sur 5 jeunes femmes si pressées l'une contre l'autre qu'elles ne pouvaient remuer. Elles étaient toutes très jolies et se protégeaient de la pluie avec de vieux journaux. Mais la pluie les atteignait, trempant leurs robes multicolores, trempant le jeune homme. Ses cheveux étaient plaqués par l'eau. Mais il n'avait pas l'air d'y prendre garde. Il ne s'en plaignait pas, et cela n'était pas habituel. Avant, il se plaignait toujours. De la pluie, de la chaleur, du temps, du froid, de la distance. Hernando hocha la tête. « Je vais vous apporter de l'eau. » « Oh, je vous en prie, dépêchez-vous !» s'écria l'une des filles. Elle paraissait être très montée et apeurée. Ce n'était pas de l'impatience, seulement une demande provoquée par la crainte. Pour la première fois de sa vie, Hernando courut à la requête d'un touriste. Auparavant, dans un cas semblable, il ralentissait l'allure. Il revint avec un chapeau de roue plein d'eau. C'était aussi un cadeau de la route. Un après-midi, il l'avait volé, comme une pièce de monnaie dans son champ, rond et étincelant. La voiture à laquelle il appartenait avait continué, inconsciente du fait qu'elle avait perdu un œil argenté. Jusqu'ici, sa femme et lui s'en étaient servis pour la lessive et la cuisine, cela faisait une belle bassine. Tandis qu'ils versaient l'eau dans le radiateur, Hernando regarda leur visage tourmenté. « Oh, merci, merci !» dit l'une des filles. « Vous ne savez pas comme c'est important !» Hernando sourit. Il y a une telle circulation à cette heure, et toutes dans le même sens, vers le nord. Il n'avait pas voulu dire quelque chose qui leur fit mal, mais quand il releva les yeux, elles étaient toutes là, assises sous la pluie, à pleurer, à chaudes larmes. Et le jeune homme s'efforçait de les calmer, en leur mettant la main sur l'épaule et en les secouant avec douceur, l'une après l'autre. Mais elles tenaient leurs journaux au-dessus de leur tête, leurs bouches tremblaient, leurs yeux étaient clos, leurs visages changeaient de couleur. Et elles pleuraient, les unes fort, les autres doucement. Hernando resta là, avec son enjoliveur à moitié vide dans les doigts. « Je n'ai rien voulu dire de mal, seigneur, » s'excusa-t-il. « Ce n'est rien, » dit le jeune homme. « Qu'est-ce qui ne va pas, seigneur ?»« Vous ne savez pas, » répondit l'autre en se retournant et en agrippant le volant. Il se pencha. « C'est arrivé !» Cela était mauvais. Les filles se mirent à sangloter de plus belle, accrochées les unes aux autres, oubliant les journaux, laissant la pluie leur dégouliner sur la figure et se mêler à leurs larmes. Hernando se raidit. Il mit le reste de l'eau dans le radiateur. Il regarda le ciel, noir d'orage. Il regarda la rivière tumultueuse. Il sentit l'asphalte sous ses pieds. Il vint vers la portière. Le jeune homme lui tendit un peseau. « Non, Hernando le repoussa. Je vous l'offre avec plaisir, dit-il. « Merci, vous êtes si bon, dit l'une des filles, entre deux sanglots. « Oh, maman, papa, je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison, maman, papa. » Les autres la tenaient. « Je ne suis pas au courant, seigneur, dit tranquillement Hernando. « La guerre, cria le jeune homme à tue-tête, comme si on ne pouvait pas l'entendre. « C'est arrivé, la guerre atomique, la fin du monde. « Seigneur, seigneur, dit Hernando. « Merci, merci beaucoup pour votre aide. Au revoir, dit le jeune homme. « Au revoir, dit-elle toute sous la pluie sans le voir. » Il resta là, tandis que la voiture embrayait et démarrait en ferraillant. Elle s'estompa dans la vallée et disparut avec les jeunes filles. La dernière voiture, les journaux palpitant au-dessus de leur tête. Pendant un long moment, il ne bougea pas. La pluie coulait très froide sur ses joues et le long de ses doigts, imbibant la toile de sac qui couvrait ses jambes. Il retenait sa respiration tendue par l'attente. Il observait la route, mais elle ne bougea plus. Il doutait qu'elle bougeât d'ici très longtemps. La pluie cessa, le ciel déchira les nuages. En 10 minutes, l'orage était passé, comme une mauvaise haleine. Un air doux lui souffla l'odeur de la jungle sur le visage. Il entendait la rivière qui coulait dans son lit, à son aise. La jungle était très verte, tout était frais. Il marcha dans son champ jusqu'à sa maison et reprit sa charrue. La main sur le manche, il regarda le ciel que le soleil rendait de nouveau brûlant. Sa femme l'appela, toujours à son travail. « Qu'est-ce qui s'est passé, Hernando ?»« Rien, dit-il. » Il engagea le soc dans la raie. « Bon !» cria-t-il à son âne. Et ils s'ébranlèrent, sous le ciel dégagé, sur leur labour, le long de la rivière profonde. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par « le monde » se demanda-t-il.